Bonjour, bonjour à toutes et à tous. On est vendredi, il est presque midi et demi, presque. Non, j'ai eu un petit souci au dernier moment, je me suis aperçu que je m'étais trompé dans une horaire, pour tout vous dire, dans l'horaire d'un des matchs du week-end, donc il a fallu que je change un visuel et tout, bref, au dernier moment. Voilà, c'est pas grave, on est vendredi, donc il est presque midi et demi. C'est l'heure de Dans la Lucarne, le rendez-vous traditionnel, où l'on va passer un peu moins d'une heure à essayer de... Justement, de vous faire votre programme du week-end sur la planète Lucarne opposée. Aujourd'hui, on va se promener, vous allez le voir et vous avez peut-être vu sur l'annonce, on va se promener entre les États-Unis, l'Équateur et la Colombie. Voilà le menu de ce week-end. N'hésitez pas à nous suivre, on est en direct donc les vendredis à midi et demi sur Twitch, sur Kick et sur YouTube, comme ça la vidéo est tout de suite disponible et vous pouvez regarder tranquillement en replay si vous n'êtes pas avec nous en direct pour faire votre menu du week-end. Ça sera aussi disponible sur les différentes plateformes d'écoute des réseaux Lucarne Opposé, les différentes plateformes de podcast. Mais si vous voulez venir interagir avec nous, c'est donc à midi et demi à peu près, plus ou moins 5 minutes, les vendredis. Et ça, vous pourrez discuter avec la commu LO. Je vois qu'il y a déjà des gens dans le chat et je vais les saluer. Red le Rouge, Ma Foi et Ibra. Écoute, on verra si ça sera avec Sampaoli, je ne sais pas. voilà, ça risque, va falloir se mouiller un tout petit peu la nuque du côté de Rennes si ça passe de Julien Stéphan à Jorge Sampaoli, on verra. Ce but de Quintero, j'y étais allé, cette image est probablement l'une de mes images préférées. Après, je t'avoue, Ibra, que j'ai une vraie préférence pour tous ces plans un peu en slow motion avec l'image vue de derrière et tout. Bref, voilà, c'est le petit trip perso. Et c'est vrai que ce but est absolument magnifique. C'était contre Racing, si j'ai bonne mémoire. Bref, pas d'Argentine au menu dans la lucarne de ce quatrième épisode. Le temps pour moi de remercier Nils Marquis pour le follow et on va pouvoir y aller directement. On ne va pas perdre plus de temps que ça puisque je suis déjà en retard. On va commencer avec le premier rendez-vous du week-end et vous allez voir pourquoi je dis rendez-vous. Premier rendez-vous et merci à Elsie aussi pour le follow. Premier rendez-vous du week-end et non pas premier match parce qu'on va évidemment forcément parler de cette soirée MLS qui nous attend exactement. Mais si, ah oui, forcément, cette soirée MLS qui nous attend, qui va démarrer la nuit prochaine. Dans la nuit donc de vendredi à samedi à 4h30 du matin, je vais y revenir dans un instant. Mais évidemment, ce sont ces matchs 3, ces fameux matchs 3 des playoffs MLS qui vont animer le week-end américain. Match 3, je vais quand même le rappeler au cas où, pour ceux qui ne sont pas encore tout à fait dans le truc et qui ont pas, qui ne savent pas, tout simplement. Match 3 parce qu'on est donc en play-off, on est au premier tour des play-offs. Ça pourrait être en gros l'équivalent des quarts de finale ou de conférence, pour être précis, les huitièmes de finale si on met les deux ensemble. Bon, on va l'appeler ça comme ça. Et donc, on joue le titre. Et oui, on va rappeler à Gianni Infantino que l'Inter Miami n'est toujours pas champion MLS, peut-être, mais peut-être pas. Et on va voir pourquoi dans un instant. Et donc, ce premier tour se joue au meilleur des trois matchs, pas d'aller-retour, non, au meilleur des trois matchs. Les scores importent peu, même importent pas du tout, sauf savoir qui gagne. Et je le rappelle, dernier petit point de règlement, à l'issue du match des 90 minutes, s'il y a match nul, on va directement à la loterie, au tir au but. Bref, quatre équipes se sont déjà qualifiées. Je vais quand même vous montrer le tableau des playoffs histoire de planter véritablement le décor. Quatre équipes se sont déjà qualifiées. On connaît même déjà une affiche des demi-finales de conférence puisque vous le voyez, le Galaxy s'est qualifié sans problème en deux matchs donc face à Colorado Rapids, 2 victoires, 5-0 et 4-1. Minnesota United, c'est l'une des surprises, a sorti le Real Salt Lake avec deux séances de tir au but aussi, mais on va dire une hiérarchie respectée entre les Sounders et Houston, qui attendent donc leur futur adversaire, on va y revenir. Ça, c'est pour la conférence Ouest, et du côté de l'Est, il n'y a qu'une seule équipe qui s'est qualifiée en deux matchs, et c'est la grande sensation de ce premier tour des playoffs. Il y a toujours des grandes sensations dans les playoffs, MLS, et même dans les Ligues mexicaines. À chaque fois qu'il y a des playoffs, il y a toujours des surprises, de toute façon. La première grande sensation de ces playoffs, ce sont donc les New York Red Bulls qui ont sorti Columbus en deux matchs. Tout simplement, victoire à Columbus et victoire au tir au but lors du match 2. Et donc, attend de savoir quel sera son adversaire. Et donc, vous le voyez, pour les trois autres matchs, eh bien, il va y avoir un énorme suspense. Je salue quand même Nostromo qui est arrivé. Je vais te donner l'horaire du match dans un instant, Ibra. Le Galaxy n'a pas fait de détails. Reste à savoir comment Minnesota va tenir le coup. Oui, c'est peut-être l'une des affiches qui s'annonce les plus déséquilibrées, mais on va voir que la notion de déséquilibre en play-off... Voilà. Voilà. Puisque, bah, justement, vous voyez, par exemple, qu'en notion de déséquilibre, les Red Bulls ont sorti Columbus, qui était juste le champion en titre. Il n'y a donc... pas de champion en titre encore engagé. Il n'y aura donc surtout pas de ce que l'on appelle là-bas le back-to-back, en fait, de conserver son titre. Ce n'est plus arrivé depuis Houston qui l'avait fait en 2006 et 2007. Et d'ailleurs, sur les équipes restantes, pour l'instant, les qualifiés, dans les qualifiés, il n'y a que deux anciens champions, puisque le Galaxy et Seattle ont déjà remporté un titre. Et dans les potentiels qualifiables, il reste le LAFC qui a été champion en 2019. Pour Seattle, c'est 2014, hein, de mémoire. Non, c'est pour 2014 peut-être. Non, 2019 pour les Sounders. 2014, c'est le Galaxy. Voilà, on va y arriver. Atlanta, qui joue contre Miami, lui, a été champion aussi en 2018 avec Tata Martino. Et City, qui joue contre Cincinnati, a été champion en 2021. Vous voyez, il reste des champions. Le LAFC, lui, est champion 2022 et finaliste 2023. Bref, je le disais, le menu du week-end, il va se concentrer sur les quatre matchs qui n'ont pas encore décidé. Tout va se jouer sur ce match-là, donc sur un match sec. Et ça va commencer dans la nuit donc de vendredi à samedi à 4h30 du matin avec ce Los Angeles FC contre les Vancouver Whitecaps, les Black and Gold de Hugo Lloris, Denis Bouanga et Olivier Giroud, face aux Whitecaps, notamment d'un Ryan Gold qui est pour l'instant assez impressionnant puisqu'il a marqué 5 buts en deux matchs de play-off, tout simplement. Voilà, il se promène, le garçon. Et le danger est quand même réel parce que les Whitecaps ont vraiment, vraiment bousculé, même plus que ça, ont largement dominé le match 2. Et surtout, petit point statistique, on va rappeler qu'en Leagues Cup, ces deux équipes se sont affrontées en phase de groupe. C'était aussi à Los Angeles et ce sont les Whitecaps qui s'étaient imposés au tir au but. Bref, on verra parce que en Leagues Cup, le LAFC était allé jusqu'en finale. On verra donc. Ça, c'est le premier match. Et le deuxième gros spot de cette session de play-off, on la vivra ensemble. Ça sera samedi soir. Ça va démarrer à 22h avec ce Cincinnati-New York City. Cincy qui a gagné le premier match 1-0 et qui s'est fait manger sur le terrain de baseball au match retour. Bon, sur le papier, c'est pareil du point de vue statistique. New York City n'a gagné qu'un seul match en déplacement en MLS. Depuis janvier dernier, c'était le 5-1 face aux Red Bulls. C'est pas vraiment un gros déplacement puisqu'ils jouent parfois à la Red Bull Arena. Donc sur le papier, ça paraît aussi un petit peu déséquilibré. New York, Cincinnati et Orlando, Charlotte, ça reste indécis. Exactement, même si tu vois, j'ai donné quelques points de stats. Je vais en donner quelques-uns sur les statistiques de ce Orlando, Charlotte qui sera le match qui suivra à minuit. 2-0, c'était la victoire lors des deux derniers matchs face à Charlotte pour Orlando, face à une équipe que l'on surnomme The Crown. Vous voyez pourquoi, hein, ils ont une couronne du côté d'Orlando. Ce sont les Lions. Et donc, voilà, sachez qu'en plus, Charlotte n'aime pas trop jouer contre Orlando. Ils ne les ont battus qu'une seule fois dans toute leur histoire, en 8 matchs. C'était en 2023. Donc là aussi, ça s'annonce indécis, même si statistiquement parlant, c'est assez déséquilibré. Et donc, ce match est à minuit. Et donc, comme le disait Ibra, à 2h du matin, il y a le match que... je pense tout le monde attend forcément le match 3 entre l'Inter Miami et Atlanta. Le match qui va opposer Rob Valentino, l'actuel entraîneur d'Atlanta, à son ancien mentor Tata Martino, aux côtés de qui il avait été champion en 2018 avec justement Atlanta. Mais donc là aussi, l'indécision demeure quand même, parce qu'on se rappellera aussi que si l'Inter Messi avait largement dominé le match 1, c'était un petit peu, et on avait eu notamment un extraordinaire Brad Guzan. Le match 2 a été beaucoup plus compliqué pour les Hérons et il y avait eu une victoire d'Atlanta. Petit point statistique aussi pour vous montrer qu'il y a quand même un petit peu d'indécision, même si il est vrai sur le papier, tout le monde s'attend à ce que l'Inter Miami s'impose. Oui, c'est fait exprès, Inter Messi Ibra. Du point de vue des statistiques, Tout le monde se dit aucune chance pour Atlanta. On va juste rappeler que l'Inter Messi a perdu que l'Inter Messi, la dernière défaite de cette équipe-là à domicile, c'était face à Atlanta, justement. Bref, ça sera donc à 2h du matin. Je le disais, ça sera dans le cadre de notre soirée nord-américaine. On va se donner rendez-vous samedi soir. Je ne sais pas encore si on pourra faire l'intégralité du premier match de 22h, qui est de mémoire le Orlando-Charlotte. Sinon, on prendra en cours sur... c'est Cincy-New York City, le premier match, pardon. Sinon, on prendra ce match-là en cours. Par contre, ce qui est certain, c'est que les deux suivants, on les fera en intégralité. Je rappelle donc les trois rendez-vous, Cincy-New York City, 22h. Orlando-Charlotte minuit et Inter-Miami Atlanta United à 2h du matin. Et je rappelle que donc la nuit prochaine, au moment où on enregistre, le LAFC jouera contre Vancouver, contre les Whitecaps. Voilà, c'est le programme de cette session MLS. Le temps de vous rappeler aussi que si vous voulez le suivre, parce que c'est aussi l'idée de l'émission, c'est de donner des conseils pour savoir comment le suivre. Pour le suivre, c'est sur le MLS Season Pass. Et sachez que, alors j'ai complètement oublié de vous mettre le visuel, mais sachez que le MLS Season Pass est à 10€ jusqu'à la fin de la saison MLS. C'est-à-dire que vous pouvez voir absolument tous les playoffs directement. Et j'ai vu aussi que le MLS Season Pass était inclus dans l'offre Apple TV+, si vous l'avez, donc vous n'avez rien à payer de plus. 10€ pour voir toute la fin des playoffs, bon, ça peut être intéressant plutôt que d'aller déposer 10€ sur une plateforme de paris sportifs pour voir les matchs. D'ailleurs, je pense que vous n'avez même pas la MLS. Bref, c'est donc ce premier rendez-vous du week-end. Vous avez vu, ce n'était pas un match, c'était un rendez-vous, et puis on va passer tout de suite au deuxième, et vous allez voir que les deux prochains, et même si vous voyez hein, le Cincinnati New York City est à 22h, et bien vous allez voir que les deux autres prochains rendez-vous sont à des horaires totalement abordables pour tout le monde. Oui, parce que on le sait, sur Hello il faut être un tout petit peu insomniaque, mais là vous allez voir qu'il n'y a pas forcément besoin, et on va le voir tout de suite avec le deuxième match du week-end. C'est parti. Le deuxième match du week-end va nous conduire en Équateur. Il n'empêche que les équipes qualifiées à partir des play-ins jouent crânement leur chance et ne se laissent pas faire, nous dit Nostromo. Ça, c'est pour la MLS, oui, effectivement. Et on voit que c'est le principe des matchs de coupe. Rien n'est jamais joué par avance. Je le disais, on va passer au deuxième match. Le deuxième match est donc, nous emmène en Équateur. Ça va être aussi pour moi, comme d'habitude, de faire un petit point sur justement le championnat équatorien, que je continue de suivre, mais que, sur lequel je n'ai pas forcément le temps d'écrire. Pour Hello, le deuxième match, vous l'avez vu, va nous conduire sur la grosse affiche hein, du week-end qui va opposer la LDU à Independiente del Valle. On va le prononcer pas à l'Argentine. Si vous avez un Argentin qui vous parle, il va vous dire Independiente del Valle. Mais bon, Independiente del Valle. Vous avez l'habitude hein, de voir le championnat équatorien dans les Golazo Hello. Il y en a à peu près en ce moment un toutes les semaines au minimum. Donc, histoire de bien vous initier et de bien vous permettre de plonger dans ce championnat-là, et ben voilà, rien de tel que ce LDU Independiente del Valle. C'est tout simplement le match qui va décider du titre. C'était la finale du championnat l'année dernière, en 2023, la LDU s'était imposée. C'est pas un classico, ça on va le dire tout de suite, ce n'est pas un classico, en tout cas pas pour l'instant, mais c'est véritablement la très très grosse affiche, et c'est surtout deux équipes qui symbolisent aussi l'évolution du football équatorien dans son histoire, et justement, on va en parler dans un instant. Avant cela, vous en avez l'habitude, petit décor, on va planter le décor, histoire de donner les paramètres pour bien comprendre les enjeux de ce match. Une saison équatorienne se dispute à 16 et se dispute en 3 phases. Une phase aller, en gros, concrètement, une phase retour, où tout le monde s'affronte hein, pour les matchs. Ça s'appelle Primera Etapa et Segunda Etapa. Vous avez peut-être entendu parler pour d'autres championnats d'Apertura et Clausura. Bon, voilà. Là, c'est première étape, seconde étape. Nous avons un champion par phase, un pour l'aller, un pour le retour. S'ils sont différents, ils s'affrontent lors d'une troisième phase qui est tout simplement une finale en match aller-retour. Sachez que, quand même, chaque vainqueur de chaque étape, on va dire, se qualifie pour la prochaine Libertadores. Et donc, je vous disais, il y aura une finale aller-retour sur chaque vainqueur. pour planter un petit peu le décor un petit peu plus sur ce match-là. La Primera Etapa a été remportée par Independiente del Valle. Et donc, on est en train de jouer la Segunda Etapa. Je vais vous montrer juste le classement pour que vous mesuriez l'enjeu de ce qu'il se passe autour de ce match-là. Ce sont tout simplement les deux leaders du championnat ex aequo qui vont s'affronter je n'ai même pas donné la date, ce samedi à 21h30. Voilà, en prime time pour le coup. Et je vous dirai dans un instant comment suivre ce match parce que c'est assez facile. Mais c'est donc samedi à 21h30. Et si vous voulez une petite confidence, c'était sur ce match-là sur lequel je m'étais trompé pour l'horaire. J'avais mis une mauvaise horaire. Et c'est pour ça qu'on a démarré un petit peu en retard. Alors, on va revenir un petit peu sur l'histoire parce que je vous disais, ça en dit beaucoup sur l'histoire du football équatorien. Donc, vous voyez qu'on est véritablement sur une vraie finale, hein. Première peut-être finale pour le titre, un petit peu d'histoire. La Liga de Quito a été fondée en 1918 au sein de l'Universidad Central de Ecuador. À l'époque, elle s'appelait d'ailleurs Universitario. Vous avez déjà entendu, hein, la semaine dernière, je parlais d'Universitario dans Lucarne américaine, notamment. J'ai déjà parlé de ces clubs universitaires, de l'importance des clubs universitaires. On en parlait beaucoup du football universitaire en Amérique du Sud dans un magazine de Lucarne Opposée, le magazine numéro 12. Et donc, ce n'est qu'en 1930 qu'elle est devenue la Liga Deportiva Universitaria, et donc la LDU, c'est comme cela qu'on a l'habitude encore de l'appeler. Vous voyez une très très vieille image qui date justement des années 30, et donc est à l'origine un club multisport, il l'est toujours. Le maillot et le short sont blancs, vous le voyez, c'est choisi par le recteur qui est au centre de cette image-là. Pourquoi en blanc? Parce que c'est tout simplement un rappel à la faculté de médecine au sein de l'université. Le logo prend les couleurs bleu et rouge, qui sont tout simplement les couleurs de la ville de Quito. Vous pouvez d'ailleurs, si vous vous souvenez du Deportivo Quito, y jouer aussi en bleu et rouge. Et pour un petit point général, le club est quatrième au palmarès national. Quatrième au palmarès national. Ce n'est pas le club le plus titré en Équateur. La LDU a 12 titres. Ils sont à une longueur d'El Nacional, qui est l'un des grands clubs équatoriens, et à 2 d'Emelec et à 4 de Barcelona, les deux clubs de Guayaquil étant les deux clubs les plus titrés de la ville. Sachez quand même que ce géant est descendu 3 fois, a quitté l'élite à 3 reprises, en 72, en 79 et en 2000. Mais forcément, si vous connaissez la LDU, c'est parce que la LDU a été champion de la Libertadores. C'était en 2008 et c'était face à Fluminense. Ça a été le premier club équatorien à décrocher une compétition continentale majeure, la Copa Libertadores 2008. Ils ont remis ça en 2009 en Sudamericana, toujours face à Fluminense. Et ensuite, ils ont aussi tout simplement remporté la dernière Copa Sudamericana. C'était l'année dernière face à Fortaleza. Et il n'y a qu'un club équatorien dans toute l'histoire qui a réussi à faire pareil, à récupérer, à décrocher des titres continentaux. C'est celui qui l'a précédé au palmarès de la Sudamericana. C'est le vainqueur 2022. Je vais en parler tout de suite. C'est forcément Independiente del Valle. Alors, Independiente del Valle, vous en avez forcément entendu parler à partir de 2016, quand le club a renversé River, a renversé Boca pour aller en finale de la Copa Libertadores face à l'Atlético Nacional. Alors, on ne savait pas encore, mais à ce moment-là, on venait d'entrer tout simplement dans une nouvelle ère. Le club, à l'origine, s'appelait Independiente José Terán, avait les couleurs rouges, en hommage aussi à Independiente, le club argentin. Et son histoire a changé quand, en 2007, un homme nommé Michel Deller l'a racheté. Michel Deller, c'est tout simplement le des propriétaires des franchises KFC en Équateur. Et lui a décidé de tout changer pour reprendre ce club qui naviguait en 3e division. Et lui a décidé donc d'appliquer une structure à l'européenne et de tourner le club vers la formation. L'idée, elle est simple, ne pas investir de l'argent dans des seconds marchés, entre guillemets, des seconds couteaux qui évoluent sur le continent, des joueurs étrangers, mais donc mettre tout cet argent-là sur la formation des jeunes. Il va construire un centre de formation, il va investir jusqu'à 30% du budget pour justement le scouting, le maillage territorial, la formation des jeunes, l'école de foot. Et puis, il fait reposer son modèle économique sur la vente des jeunes. Eh bien, ça marche tout simplement. il prend comme modèle l'Espagne et s'inspire et travaille aussi beaucoup avec la Spire Academy. On en a déjà beaucoup parlé sur Hello, il y a eu des papiers là-dessus. Donc je vous invite à aller voir ça sur Hello. Donc remettre en place un système de formation à l'espagnol est basé aussi sur la Spire Academy et ça fonctionne. Eh ben, ça fonctionne de fou. Le club accède à la première division en 2010. Et depuis 2010, il est d'ailleurs vice-champion en 2013. Et depuis 2010, il a participé à 10 Copa Libertadores. Il a joué et il a remporté 2 Copa Sudamericana de la dernière. Donc, je le disais il y a un instant, en 2022. La première, c'était en 2019 face à Cologne. En 2017, le club a créé une filiale qui s'appelle Independiente Juniors, qui évolue en 3e division, mais qui est montée tout de suite, qui a même joué le titre de 2e division, mais qui n'a pas le droit de monter. Hein. C'est un petit peu comme le modèle espagnol, toujours comme le modèle espagnol. Donc, eux, ils ont remporté la Sudamericana à 2 reprises. Je le disais, pendant ce temps-là, les jeunes, les U20, parce que chez les jeunes, ils ravagent tout, les U20 remportent la Libertadores de leur catégorie en battant River Plate en finale. Je vais juste quand même vous citer quelques noms qui sont présents dans cette équipe championne en 2020. Vous allez voir à quel point c'est quelque chose. William Pacho, Pierre Incapié, Moisés Caicedo. Voilà, je vous donne 3 noms de cette équipe championne en 2020. Ça vous permet de mesurer l'impact et l'importance de cette équipe-là. D'ailleurs, cette équipe-là, chez les U20, a disputé 4 des 5 dernières finales de la catégorie. La 5e, c'est parce que le club ne s'y était pas qualifié, hein, tout simplement. C'est pour ça qu'ils n'y sont pas allés. Chez les jeunes, c'est 15 titres en U17, 11 en U19. Ils ont depuis créé une deuxième équipe filiale qui s'appelle Independiente JFA. Ils ont départ dans un club de 4e division espagnole qui s'appelle Numancia. Ils ont racheté totalement l'Atlético Huila, qui est en 2e division en Colombie. Et ils ont aussi ouvert une section féminine qui vient tout juste d'être sacrée championne d'Équateur. Le club a construit et financé son propre stade. C'est le premier stade en Équateur à avoir l'intégralité de ses tribunes assises. Voilà, vous le voyez, c'est le club qui a fait entrer le football équatorien dans une nouvelle ère. Beaucoup s'en inspirent depuis au pays. Sachez que plus aucun club de l'élite équatorienne n'a pas un joueur au minimum qui n'est pas passé plutôt par Independiente del Valle. Ça, forcément, je vous ai donné des noms et ça dégouline aussi sur la sélection d'Équateur. Et donc, je le disais, ce match entre la LDU et Independiente del Valle, c'est un peu le choc entre un géant et un nouveau géant qui est en train de se créer. Je le disais, c'est le remake de la dernière finale du championnat. C'est aussi le match qui va opposer les deux derniers vainqueurs de la Sudamericana. Independiente del Valle est aussi en finale de la Coupe d'Équateur. Voilà, c'est juste un monstre. Et je vous rappelle donc que, comme Independiente del Valle a déjà gagné la première étapa, et l'a gagné de manière très large, hein, 10 victoires et 5 nuls, aucune défaite en 15 matchs, mène la deuxième phase. Si Independiente del Valle venait à remporter cette deuxième phase, il n'y aurait donc pas de finale. Independiente del Valle serait sacré champion. Il reste 2 journées à disputer dans ce championnat. Vous mesurez l'enjeu et vous mesurez pourquoi il va falloir aller voir ce match-là. C'est à 21h30 samedi et il existe un moyen légal, payant mais légal, de voir ce match-là. Il suffit d'avoir l'offre à Fanatize, c'est 90€ par an, ou sinon il y a des tarifs mensuels et j'ai oublié la valeur, mais sinon c'est 90€ par an et vous avez accès à l'Argentine, je le répète à chaque fois, mais si vous utilisez un VPN et il y a des extensions gratuites qui vous permettent notamment de vous déplacer jusqu'aux États-Unis, eh bien vous aurez accès à ce match samedi à 21h30, c'est aussi un bon moyen pour vous de découvrir le football équatorien. Et pourquoi pas aussi, en attendant la soirée MLS, de se faire un petit peu plaisir. Je n'ai pas salué Nostromo qui est retourné bosser. Bon travail à toi, bon après-midi et à très vite. Et donc, on vient de faire ce deuxième match, on vient de planter le décor de ce deuxième match, samedi à 21h30, donc juste avant la soirée MLS. On va passer au dernier match de notre session du jour, de notre 4e épisode de Dans la Lucarne. On était en Équateur, on va aller juste chez le voisin. Le dernier match va nous amener, vous venez de le voir, en Colombie. C'est la dernière étape donc de notre week-end de foot. Et il y a quelques semaines, on était sur le 337e Classico Capitalino. Là, on va tout simplement se faire le 336e Classico Paisa. Le Classico Paisa, c'est donc le Classico, on pourrait le dire à la franco-anglaise, le derby de Medellín entre l'Atlético Nacional et Independiente et le Deportivo Independiente Medellín, les deux grands clubs de la ville. On avait déjà fait un petit peu le point il y a quelques semaines sur le championnat colombien, et c'est toujours dans l'idée de planter le décor. Avant de planter le décor, l'horaire, que je vous la donne. Lundi à 22h10, là aussi, extrêmement accessible. Bon, on sera peut-être en plein lucarne américaine, mais il faudra faire du double screen. Mais voilà, vous voyez que le match est facile à suivre. Et je suis pas sûr à 100%, je vais le dire tout de suite, probablement Fanatis, sinon ça sera sur des plateformes de streaming, mais à un moment c'était sur Fanatis, j'ai peur que ça ne le soit plus à vérifier. Bref, on avait fait un point il y a quelques semaines sur le championnat colombien, et bien on va quand même le refaire parce que forcément les matchs se sont disputés depuis. J'espère que vous arrivez à lire ce classement. Je rappelle quand même que le championnat se joue à 20, qu'il y a deux phases où on dispute dans chaque phase 19 journées. Vous le voyez, on en a disputé déjà 17, sauf pour Independiente Santa Fe et Once Caldas, mais bon, 17. Donc vous voyez qu'on arrive au terme bientôt de la phase régulière, si vous voyez ce classement. À l'issue de ces 19 journées, les 8 premiers se qualifient pour les Quadrangulares, un tournoi quadrangulaire dans lequel ils sont répartis en deux groupes de 4, dont seul le vainqueur se qualifie pour la finale qui se joue en aller-retour. On est dans le Torneo Finalización, le deuxième tournoi de l'année. Donc, vous le voyez, nos protagonistes jouent une place pour les fameux Quadrangulares. Et vous le voyez, après 17 journées, l'Atlético Nacional est quand même bien parti pour se qualifier puisqu'ils sont actuellement quatrième. Alors que du côté d'Independiente Medellín, c'est la 10e place à 2 points du top 8, à 2 points de ce tournoi quadrangulaire. Et attention, parce qu'il remonte, l'Independiente Medellín d'Alejandro Restrepo, puisqu'il reste sur 3 victoires consécutives. Voilà donc un petit peu pour l'enjeu sportif de ce match. Et forcément, on va faire un petit peu d'histoire entre ces deux équipes, parce que je le disais, 337e Classico Paisa. Paisa, hein, c'est le nom que l'on donne aux habitants de la région, hein, si vous vous demandez pourquoi on appelle ça le Classico Paisa. Le plus ancien des deux clubs, c'est Independiente Medellín, qui a été fondé le 14 novembre 1913, pas tout à fait, vous allez voir. Ils arrivent le 14 novembre 1913, il y a un club qui s'appelle Medellín Football Club qui est créé pour affronter un autre club local. Un club qui s'appelle le Sporting et qui a été majoritairement créé par des immigrés suisses et belges. Et un peu moins d'un an plus tard, le 15 avril de 1914, l'acte de fondation est officialisé. Le club joue ce premier match contre le Sporting, se prend un 1-0, on pense qu'il va mourir, mais en fait, comme les clubs partagent son terrain avec le Sporting, ils finissent par être ensemble. Le club décroche ses premiers succès à la fin des années 10 et au début des années 20. Il sert carrément de base pour représenter la région Antioquia lors des Olympiades de Cali. Et il est à ce moment-là considéré comme étant le meilleur club de Medellín, dans les années 30 notamment. Donc ça continue un petit peu. Il prend part à la première division professionnelle dont on avait parlé lors du Classico Capitalino, puisqu'elle est remportée en 1948 par Independiente Santa Fe. D'ailleurs, pour l'anecdote, ils ont perdu leur premier match de l'histoire professionnelle, l'Independiente Medellín, 4-0 contre l'América de Cali. Pendant l'ère du Dorado, dont on a parlé aussi la dernière fois lors du Classico Capitalino pour Millonarios, hein, notamment avec l'arrivée de Di Stefano, du côté d'Independiente Medellín, ce sont surtout des joueurs péruviens qui viennent, mais le club va quand même souffrir à la fin des années 50 avec plusieurs crises économiques qui font que même déjà au début des années 50, il suspend son activité, il ne participe pas aux saisons 52-53. Mais bon, il finit par revenir et il revient en 54 avec ce nouveau nom, Deportivo Independiente Medellín. Il décroche son premier titre professionnel en 1955, le conserve en 1957 et donc, je le disais, en 58 n'est pas là parce qu'il fait à nouveau l'impasse sur le championnat, à nouveau traversé par des problèmes économiques. Alors, le club participe à la Libertadores en 1967, il joue Racing et River, Mais bon, voilà. Et tombe un petit peu enfin voilà, un peu plus de mal, notamment, même si il est connu pour recruter quand même quelques joueurs plutôt talentueux. On peut parler de Leonel Alvarez ou Hernan Dario Gomez dans les années 80. Ça va parler à tous les amoureux de football colombien, ces noms-là. Carlos Valderrama, dans les années 90, joue à l'Independiente Medellín. Mais le club attend quand même 45 ans pour décrocher un autre titre. C'était en 2002. Va vivre parfois des grands moments de solitude, notamment en 1993, quand il pense être champion, parce qu'il vient de s'imposer justement face à l'Atlético Nacional, sauf que dans le même temps, Junior, avec qui il était à la lutte, s'impose dans la dernière seconde face à l'América de Cali et lui chippe le titre. Ça rappellera des choses aux supporters de l'OM dans la lutte avec Bordeaux en 99. La bise à vous. Bref, tout ça pour dire que donc en 2002, le DIM met fin à 45 ans de disette et a depuis décroché 3 autres titres. Le dernier en 2016, le club est 7e à l'échelon national en termes de palmarès. Il est très très loin, très très loin forcément du grand rival et qui lui aussi a connu une très très belle année en 2016, l'Atlético Nacional. L'Atlético Nacional, lui, a été fondé en 1936 sous le nom d'Union Football Club par un groupe de jeunes de Medellín. Il évolue en D2 jusqu'en 1941, se retrouve en première division de la région en 1942. Alors qu'un autre club de la ville qui s'appelait Indulana veut acheter un joueur de ce club-là, le président, vous allez voir que c'est tout à fait original, le président d'Union Football Club veut pas vendre ce joueur et par peur de le perdre, choisit un truc tout simple, fusionner avec Indulana. Et c'est comme cela que ces équipes vont donc fusionner. Indulana joue en vert et rouge, Union joue en rouge et blanc. On discute donc de... On fusionne les deux 4 ans plus tard et donc ce club devient Atlético Municipal de Medellín et s'appuie donc sur des joueurs de l'Union. L'année suivante, il intègre lui aussi le premier championnat professionnel du pays, termine 6e juste devant le DIM d'ailleurs. Il se démarque très vite par une idée, un projet, entre guillemets, être l'Athletic Bilbao de Colombie, c'est-à-dire ne faire jouer absolument que des joueurs colombiens, que des joueurs locaux. Tout ça, c'est sous l'impulsion d'un actionnaire principal, Fabricato, qui est une entreprise de textile, qui va finir par donner le nom définitif à ce club-là, Atlético Nacional, qui renforce cette volonté d'être le club qui ne fait jouer que des Colombiens. Il va y avoir des périodes où ça va être un peu plus compliqué, au milieu des années 50, justement, lorsque un entraîneur du club dit que non, pour être compétitif, les enfants, il va falloir des joueurs étrangers. Je rappelle que début des années 50, c'est l'époque du Dorado, donc à l'époque où les autres vont chercher des grands Argentins notamment, ou d'autres grands représentants d'autres pays du Sud. Mais finalement, et donc le club cède et le club est champion en 1954. Mais l'année suivante, le club est aux portes de la disparition et il va être sauvé tout simplement par le DIM qui va le soutenir financièrement pour pas que le club coule, tout simplement. Et toutes ces politiques, tous ces éléments de crise économique, vous voyez que le DIM va en être frappé aussi après, que l'Atlético Nacional est pas loin de disparaître, on décide dès 1958 de revenir au projet originel, faire de l'Atlético Nacional le club des Colombiens. Donc, ils vont quand même avoir un petit peu de mal. Ils vont réussir quand même à former une équipe, à recruter quelques joueurs. Au final, ils vont même recruter des joueurs du DIM qui en pause à ce moment-là. Ils vont les faire jouer. D'ailleurs, à ce moment-là, il y a des gens qui parlent d'Independiente Nacional pour vous montrer à quel point la proximité entre les deux clubs est proche. Mais bon, les années 60 sont compliquées. Les années 70 sont un petit peu mieux avec l'arrivée d'Osvaldo Zubeldia qui avait été le grand artisan des titres d'Estudiantes fin des années 60, début des années 70. Et puis, il faut surtout attendre... La première grande époque de l'Atlético Nacional, correspond avec l'arrivée de cet homme-là, Pacho Maturana, et le fameux projet Criollo. On revient toujours à cette idée, le projet Criollo de réutiliser les meilleurs joueurs colombiens. Le club redevient le club des Colombiens. Maturana, avec ce projet-là, va porter la Colombie jusqu'à 1994. Je vous invite à relire quelques papiers. Pierre avait écrit dans un magazine justement à ce sujet-là pour parler de ce projet Criollo. Les Puros Criollo, qui va durer à peu près, ce projet va durer jusqu'à 2004, hein, à peu près, hein, pour l'Atlético Nacional. Et donc, ça se matérialise. Et le point d'orgue de tout cela, c'est évidemment cette finale de Libertadores remportée en 1989 face à Olimpia. Premier titre d'un club colombien dans l'histoire de la Libertadores. Et il n'y aura que Once Caldas qui arrivera à venir ajouter son nom. Et vous le savez, donc, en 2016, l'Atlético Nacional remettra ça pour décrocher sa deuxième Libertadores. D'ailleurs, à cette époque-là, donc en 89, le club décroche sa première Libertadores. Il gagne l'Inter Americana face au Pumas l'année d'après. Son cinquième titre national 91. Et donc gagne plusieurs compétitions continentales qui depuis ont disparu. Je parlais, il regagne l'Inter Americana en 97 et 2000. L'Inter Americana, c'était le vainqueur du Sud contre le vainqueur du Nord. La Merco Norte. Et donc, je le disais, 2016, il y a d'abord un rebond avec Juan Carlos Osorio entre 2012 et 2014, qui gagne 6 trophées hein, avec le club et dispute la finale de Sudamericana face à River. Reinaldo Rueda décroche la deuxième Libertadores. Atteint même la tragique finale de Sudamericana de la même année, hein, souvenez-vous, face à la Chapecoense, c'était la fameuse année du drame, la Recopa en 2017, etc., et décroche des titres. Donc, c'est surtout, vous le comprenez, au cours de ces 30 dernières années que la majorité du palmarès de l'Atlético Nacional s'est fait, et aujourd'hui, le club est le plus titré de Colombie, c'est donc le grand club de Colombie. Et on n'est plus forcément, on n'est plus non plus dans cette idée du club des Puros Criollos. Bref, notre classico dans tout ça, vous le comprenez, il n'y a pas d'histoire de lutte des classes, parce que ce n'est pas le cas. Il y a juste une histoire d'identité, il y a un mélange quand même. Vous le voyez, il y a une tradition pour les uns comme pour les autres, pour les uns notamment de jouer sur des 100% colombiens, même si ce n'est plus vraiment le cas. Il y a un peu de titres, il y a un peu de grandeur proclamée, mais il y a quand même parfois aussi des échanges entre les deux. Hein. Le DIM a sauvé l'Atlético Nacional, notamment à une époque. Mais c'est surtout un vrai duel en tribune entre deux Hinchadas qui sont quand même très, très puissantes et très, 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 très actives, même si vous le savez qu'avec les débordements ça risque, qu'il y a eu, on en avait parlé dans un Lucarne américaine, ça va être compliqué, puisque c'est interdit au parcage visiteur. On va voir comment ça va marcher ce week-end. Mais surtout, on va en profiter, parce que c'est vrai que dès qu'on parle de football colombien, on va forcément nous parler de Narcos. On va quand même rappeler contrairement à ce que certaines séries veulent bien nous faire croire, à ce que certains aussi veulent bien écrire, Pablo Escobar n'était pas supporter de l'Atlético Nacional, mais du DIM. Et j'en profite une fois de plus pour rappeler que cette fameuse photo que l'on trouve sur certains sites de foot, hein, même parfois des sites, enfin des grands médias comme des médias indépendants, cette photo d'Escobar avec la Libertadores est fausse. Il n'était pas là, et si vous connaissez un petit peu le trophée de la Copa Libertadores, vous savez qu'il ne peut pas la tenir comme ça et qu'il y a un tout petit problème de proportion sur ce trophée. Donc, Pablo Escobar était supporter d'Independiente de Medellín. D'ailleurs, sachez que c'est en marge d'un match entre le DIM et l'América de Cali en 89 qu'il avait donné l'ordre d'exécution de l'arbitre de Alvaro Ortega, qui avait été rendu, enfin, à ses yeux, hein, coupable d'avoir injustement annulé un but pour les siens, le DIM, donc, et c'était ce meurtre-là qui avait conduit à l'arrêt du championnat à ce moment-là. Bref, indépendamment de cela, je le disais, ça va être un vrai duel, mais il est important quand même de recadrer quelques trucs, parce que c'est vrai que certaines séries font passer des choses un peu étranges. Le premier, il va être donc deux duels entre deux belles hinchadas, deux grands clubs de Medellín. Le premier s'est déroulé en 48, a été remporté par le DIM. L'Atlético Nacional a gagné le premier 6 ans plus tard, lors du 10e de l'histoire. On en a donc depuis disputé 336. Sachez que la balance penche très largement en faveur de l'Atlético Nacional qui mène 135 victoires à 96. Et sachez aussi que le DIM n'a plus gagné le moindre classico depuis 6 matchs. C'était le dernier donc en mai 2022. Le rendez-vous lundi 22h10 pour cette rencontre entre l'Atlético Nacional et Independiente Medellín. Je le disais, pour le suivre, il faudra vérifier si c'est possible du côté de Fanatis. Ce n'est pas forcément toujours possible. On m'a fait remonter que ça ne marchait pas forcément la Colombie. Sinon, ça sera forcément sur les plateformes de streaming un petit peu moins légales. Bref, je vous rappelle donc les 3 rendez-vous la MLS qui démarre la nuit prochaine à 4h30 et avec laquelle on sera en direct samedi soir, peut-être à partir de 22h, voire plus. 21h30 samedi, LDU Independiente del Valle. Franchement, si vous voulez découvrir le foot équatorien, c'est l'un des meilleurs moyens de le faire puisque c'est la grosse affiche. Et donc, lundi 22h10, en plein lucarne américaine, mais vous serez excusé si vous faites du double écran, Atlético Nacional Independiente Medellín. Voilà, on arrive au bout de cette émission. Je vous dis, je vous rappelle donc le rendez-vous, ça sera demain. Vérifiez quand même, je vous donnerai sur les réseaux sociaux les horaires exacts pour voir si on démarre à 22h ou si on arrive en cours de Cincinnati, New York City. Ce qui est certain, je le disais tout à l'heure, Orlando Charlotte et Inter Miami Atlanta, on les fera en intégralité. Je vous invite à nous suivre donc sur ces différents réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous suivre aussi sur ces différentes plateformes hein, de LOTV, que ça soit Twitch, que ça soit Kick ou que ce soit YouTube. Les lives sont sur ces trois plateformes-là. L'émission Lucarne Américaine n'est que sur deux d'entre elles. Dans la Lucarne, c'est sur les trois parce que ça vous permet de l'avoir directement en replay sur YouTube dans la foulée, en même temps que sur les plateformes de podcast sur lesquelles ça va arriver. Je vais vous laisser là donc pour quatrième épisode de La Planète Hello, pour ce programme qui vous a été donné pour votre week-end foot. Je vous donne rendez-vous demain, peut-être à partir de 22h, vous l'avez compris, ou un petit peu après. D'ici là, bon match, bon week-end, bon match au pluriel, et notamment sur La Planète Hello. Salut à tous.